Vivre FM.
Vivre FM. Jusqu'à midi.
Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Comment annoncer à mon enfant que je suis malade? Comment lui expliquer les traitements? C'est la question, les questions que se posent des milliers de papas et de mamans chaque année en France. Il y a des maladies plus difficiles à expliquer que d'autres. Le cancer en est une. Camille s'est trouvée, comme beaucoup d'autres dans cette situation, atteinte de cette maladie. Elle a dû l'annoncer à son fils de 3 ans et demi, lui expliquer le long déroulement du traitement. Leur histoire a inspiré le récit conté dans le livre illustré « Comment j'ai tué le chef des pamplemousses » de Pascal Bougeot.
Vivre FM.
Jusqu'à midi.
Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Pascal Bougeot, notre invité aujourd'hui. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur, illustratrice, vous avez plus de 40 livres pour jeunesse à votre actif et vous sortez depuis octobre, il est sorti en octobre, le livre « Comment j'ai tué le chef des pamplemousses » aux éditions Rue de l'Échiquier. Et puis vous êtes en compagnie au téléphone de Camille Génier. Bonjour Camille. Non, elle n'est pas au téléphone, on me fait signe. Elle sera plus tard au téléphone qu'on a perdu Camille Génier, qui est la maman qui a inspiré ce livre, avec, c'est son histoire en fait, avec celle de son fils qui avait 3 ans et demi à l'annonce de son diagnostic. Donc Camille est en ligne. Bonjour Camille.
Bonjour.
Camille, vous êtes à Vannes, en Bretagne. Vous n'avez pas pu venir ici dans le studio. Vous avez inspiré cette histoire, comment j'ai tué le chef des pamplemousses. Cette histoire, c'est vous reconnaissez dedans?
Oui, je me reconnais. Plutôt complètement, partiellement. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Je pense que c'est une histoire qui peut parler à beaucoup de parents, à beaucoup d'adultes qui traversent un parcours de soins. Donc oui, cette histoire, elle m'est propre. Et puis l'idée du livre, c'est qu'elle puisse devenir universelle comme elle l'est dans la réalité.
Alors vous, Camille, vous avez dû annoncer à votre fils qui avait 3 ans et demi à l'époque le diagnostic, votre lymphome. Vous avez dû l'énoncer, puis vous avez dû lui expliquer tout au long de votre parcours de malade. Comment ça s'est passé?
En fait, les choses se sont énoncées de façon assez pratique, c'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, et nos souvenirs aussi, se sont sans doute un peu métamorphosés. Il y avait une réalité qui était que maman partait à l'hôpital, que maman allait avoir des traitements, et à la fois les traitements en cancérologie sont souvent ponctués de retour à la maison, hôpital de jour, voilà, on est quand même encore dans la vie concrète et réelle. Donc les choses se sont énoncées que maman est malade, la maladie au tout début n'avait pas été nommée, la notion de gravité n'avait pas été énoncée parce qu'un enfant de 4 ans n'a pas notion de gravité. Il était surtout question de lui dire ce que cette maladie allait générer sur son quotidien et sur des choses très pratiques. Lui, il allait continuer à aller à l'école, il allait moins voir maman, mais quand bien même maman allait revenir. Et puis maman, surtout, elle allait avoir des répercussions sur son physique que lui, il allait pouvoir constater. La perte des cheveux, par exemple, ça c'est quelque chose de concret. Donc pour un enfant, c'est visuel, c'est juste une réalité.
Oui.
Donc les choses ont été dites très concrètement. Je prends des médicaments et ces médicaments, figure-toi, c'est assez magique, ils font tomber les cheveux. Mais ils font surtout, ils nous donnent surtout la perspective de l'espoir et de la guérison. Donc il faudra passer par là, par exemple, le jour où les cheveux sont tombés, en l'occurrence, mon petit garçon s'est juste dit, maman m'avait expliqué, action A donne conséquence B, la conséquence elle était réelle, les cheveux sont tombés. Voilà, je crois que mon fils a été le seul autour de moi, dans mon entourage propre, qui n'avait aucun regard de compassion. Et qui, sur les cheveux, par exemple, je sais qu'il y a un grand... c'est quelque chose de pour les adultes, pour tout être humain,
oui.
qui est assez... tout le monde a ses images et son fantasme. Mon fils, juste, les cheveux, ils allaient tomber, ils sont tombés. C'est une réalité, on passe à autre chose. Il y avait absolument regard comme ça, critique ou de douleur ou de peur. Non. Les choses étaient très pratiques, très concrètes. C'est vraiment, en tout cas, à cet âge-là, j'insiste sur... Parce qu'après, un enfant... un peu plus âgé, 8-10 ans, le regard est différent. Peut-être on peut expliquer des choses d'ordre plus technique, d'ordre plus... Mais la réalité, et comme pour l'entourage d'ailleurs, des adultes aussi, parce que je considère les enfants comme des aidants à part entière, expliquer, verbaliser les choses, il va se passer ça, je vais partir à tel moment, je vais revenir là. Effectivement, il y aura une fatigue, il y aura peut-être je ne vais pas manger tous les jours comme je le faisais avec toi, participer à tous les repas de famille, peut-être parfois tu me verras fatiguée, mais je vais me reposer. Et du coup, l'enfant, de façon très concrète, se positionne et fait sa vie. À partir du moment où on l'intègre, de toute façon, il est voilà, dans un cheminement qui est propre au fonctionnement d'une famille avec un événement un petit peu particulier.
Est-ce que vous lui aviez expliqué que la guérison n'était pas certaine ? Est-ce que vous, comment on parle de ça ?
Non. Là aussi, je pense que l'âge était... Enfin, il était... petit. Après, je pense que les enfants ne sont pas dupes, qu'ils entendent parler. Moi, c'est vrai que le mot cancer, finalement, j'ai pas eu l'honnêteté de le prononcer tout de suite et spontanément. On a parlé d'une maladie à l'intérieur du corps, expliqué qu'on la voyait grâce aux radios, quels étaient les traitements qui rentraient donc en intraveineuse comme une sorte de piqûre, parce que ça, c'est concret, une piqûre pour les enfants. Ça rentrait à l'intérieur du corps. Après, l'évocation de la mort, elle ne s'est pas faite, mais comme les enfants ne sont pas dupes, comme elle ne s'est pas faite avec les adultes, j'insiste toujours, oui. Mais personne n'est dupe autour du patient, c'est-à-dire, on l'imagine tous, donc je ne sais pas si mon fils a imaginé que la mort était l'option numéro 2 ou numéro 1, mais depuis que le livre est sorti, pour avoir le regard de beaucoup d'enfants et de parents, bien, les enfants savent très bien que l'issue du pamplemousse est heureuse. Moi, j'ai des camarades de classe de mon fils qui ont demandé à mon fils « Mais ta maman est morte ?» Alors que dans le livre, ils avaient que l'image du livre et puis là, ils me voient comme une maman voilà, qui est plutôt vivante et plutôt spontanée et dynamique et voilà, du côté des vivants. Mais, et quand bien même ce n'est pas dit là dans cet ouvrage, les enfants se sont déjà fait l'hypothèse. Donc c'est vrai que dans mon cas, ça n'a pas été verbalisé parce qu'on met tout en œuvre pour de toute façon aller du côté espéré de la guérison. Mais même si on ne se l'est jamais dit tous les deux, je sais pour mon fils qu'il a, il a imaginé obligatoirement cette hypothèse puisque autour de lui, il y a eu d'autres cas de cancer dans lesquels l'issue a été négative et du côté de la mortalité. Donc,
oui, donc il y avait quand même du non-dit, même à 3 ans et demi.
Même à 3 ans et demi, et puis parce que faut remettre les choses. Vous savez, la maladie, comme je dis, on est dans un rapport, c'est un plan d'action, les protocoles, c'est très technico-pratique, les médecins, toutes les équipes soignantes. Les équipes soignantes, leur métier, et les, je pense leur sacerdoce, c'est de rester toujours du côté des vivants. La mort, c'est un échec pour les patients, pour les soignants, pour les aidants. Enfin voilà, c'est notre grande terreur universelle. Donc c'est compliqué. Dans nos sociétés, c'est compliqué aussi. La mort, elle est assez taboue. La maladie est aussi taboue dans son style. Mais c'est vrai que ça n'est pas dit. Donc est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est propre à un fonctionnement d'une famille?
Voilà. Après, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez avoir mal faites et que vous referiez différemment?
C'est compliqué de répondre comme ça spontanément.
Des petites choses ou des choses importantes
par exemple, prononcer le mot cancer.
Oui.
Je pense que maintenant, avec le recul, je l'aurais prononcé. Là, j'étais aussi peut-être dans mes propres tabous ou de ce que me renvoyait cette maladie. Moi qui la découvrais, hein, on est novice en la matière quand ça vous arrive la première fois. C'est vrai que j'aurais prononcé le mot pour permettre. Alors par contre, là où je pense que j'aurais gardé le même scénario, c'est quand même verbaliser, informer, considérer l'autre, qu'il ait 4 ans ou 50 ans... à la fois pour pas plus bête qu'il n'est et du coup lui donner un niveau d'information le plus transparent possible. Et après, bien sûr, selon l'âge, un petit, vous allez choisir des vocables différents parce que voilà, on a... Puis après, ça dépend aussi du tempérament du patient. J'ai quand même toujours voulu être dans une posture la plus combative possible auprès de mon fils. Parfois au début j'étais dans une chaise roulante, il m'a vu en chaise roulante, mais si je pouvais être plutôt debout qu'en chaise roulante, bon bah ça c'est un peu transformer sa réalité pour, c'est la posture que l'on choisit d'avoir. Donc moi j'ai été toujours fidèle à, on va dire entre guillemets, mes souhaits de transparence, d'information, et puis de finalement de transmettre aussi une information qui fait qu'aujourd'hui mon fils peut parler du cancer légitimement parce qu'il a été aidant. et qu'il va rétablir des vérités sur des rumeurs, des choses qui sont non dites, mal dites parfois, qui sont parfois le mensonge aussi, hein, pour masquer la vérité. Donc je trouve, ça c'est le prof de...
Votre fils, il a lu ce livre, « Comment j'ai tué le chef des pamplemousses ?»
Bien sûr, il l'a lu, relu, il est à la fois fier parce qu'il sait que c'est son histoire. Il m'a dit que ça lui avait permis ce travail en lien avec Pascal, puisqu'il voyait les planches au fur et à mesure vraiment de ce que Pascal a créé. Et puis il a donné son avis de façon aussi très concrète et réaliste. Et une fois que l'objet, parce que le livre c'est quand même l'objet matériel aussi, a participé à sa bibliothèque et s'est intégré dans sa bibliothèque, c'est à la fois un joli clin d'œil, une jolie réalisation dont il est très fier et qui se fait un peu le porte-parole et l'ambassadeur, hein, au sens propre. Il a voulu tout de suite l'emmener à l'école.
Il l'a montré à ses camarades.
Il l'a montré, la maîtresse l'a lu en classe. C'est une façon de communiquer, un livre, bien évidemment. Et mon fils s'en est saisi. Et là où moi, j'ai été aussi décontenancée, c'est qu'il m'a dit « Tu sais, grâce à ce livre, maman, j'ai mieux compris ta maladie. » Donc, cela veut dire que...
Il y a encore un travail d'information à faire.
Exactement, malgré moi, ma perception. Mais ça, c'est... La perception des uns n'est jamais celle des autres. Et voilà, on ne sait jamais exactement si on a tout...
Alors, ce livre, c'est vous qui l'avez inspiré. C'est votre histoire avec celle de votre fils, Émile, qui avait 3 ans et demi à l'époque. Pascal Bougeot qui est présente et qui vous écoute depuis tout à l'heure.
Bonjour, Bougeot. Camille.
Ça va, Pascal?
Bien.
Vous connaissiez avant l'écriture de ce livre?
Alors, Camille, explique.
Non, vas-y, Pascal.
Allez-y, Pascal.
Donc, en fait, la maman de Camille est une élève de ma maman qui donne des cours de yoga. Voilà, et c'était en fait le seul lien qu'on avait. Camille connaissait mes albums. Voilà, je te laisse continuer, Camille.
Voilà, Camille, vous connaissiez Pascal, vous appréciez son travail d'auteur et illustratrice pour livres pour enfants, c'est ça? Et vous lui avez demandé d'intervenir, d'écrire quelque chose pour vous?
Voilà, tout à fait. Nous, effectivement, la bibliothèque de mon fils, elle est ponctuée d'énormément d'ouvrages de Pascal, dont des blockbusters comme Chacun dans son lit, qui a quand même été un des livres, je crois, qu'on a le plus lu par rapport aux problématiques du sommeil chez les petits. Et j'appréciais bien sûr la poésie, les illustrations, la douceur, la...
En tout cas, vous étiez fan.
Admirative.
Vous étiez fan et on comprend que vous ayez fait appel à Pascal Bougeot. Alors, je vous laisser, Camille. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Camille. Bonne journée.
À bientôt.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir. Pascal Bougeot, vous avez entendu Camille, donc vous avez collaboré avec elle pour écrire cette histoire. C'est vous qui avez écrit les textes, qui avez fait les dessins de cet album, mais vous vous êtes vraiment servi de l'histoire de Camille. Comment s'est passé le processus d'écriture?
Alors déjà, je peux dire comment on s'est rencontrés. Camille m'a envoyé un très gentil mail, très timide, en me disant qu'elle aimait beaucoup mon travail et que vraiment, elle aimerait que je raconte son histoire. Et donc, on s'est donné rendez-vous dans un café à Paris. Elle est venue de Bretagne et là, elle m'a raconté son histoire. Et c'est vrai que c'était très, très émouvant. Et sur mon premier réflexe, c'était d'avoir un peu peur, hein. Dire « Ouh là là, c'est
très différent de ce que vous faites habituellement.
Bon, » Oui, je fais des choses souvent de vie quotidienne ou après mes voyages, mais je n'avais jamais abordé un thème aussi
sérieux,
émouvant. Les autres thèmes sont aussi sérieux et émouvants. Et jamais de thème, en tout cas, sur la maladie. Donc, à la suite de notre premier rendez-vous, je me suis dit « Oh là là !» Oh là là. Et puis en fait, ce rendez-vous, l'échange qu'on a eu ensemble, m'est resté dans la tête. Et vraiment, il m'a pas lâché. C'est-à-dire, mon premier réflexe a été de me dire, oh là là, comment je vais faire? Et puis après, en fait, l'histoire, elle s'est imposée d'elle-même. Et en fait, je l'ai très vite structuré. Alors, je l'ai structuré à partir d'un premier chemin de fer que Camille avait fait, de dessins qu'Émile avait fait. Et donc, à partir de là, ça a été très, très vite. J'ai très vite fait des crayonnés, j'ai très vite dessiné en crayonné l'histoire. Je lui ai proposé. Alors là,
il n'y avait pas le texte, il y avait juste le dessin.
Alors moi, j'avance un peu parallèlement. C'est-à-dire, je fais dessin, planche par planche, au crayon de papier, avec un premier texte. On s'est rencontrés là, à Amboise, sur les bords de la Loire. C'est à mi-chemin entre chez elle et chez nos mamans, à Blois. Et là, j'ai senti que Camille était très émue. Et donc, ça m'a confortée dans mon idée que... Oh, quel beau sujet! Voilà, émouvant, mais quel beau sujet!
Et alors, il y a eu des échanges, vous proposiez à Camille, Émile, le fils de Camille, qui avait grandi depuis, donc il a 7 ans aujourd'hui, environ.
Alors,
vous proposiez également des dessins?
En fait, cet album s'est fait assez rapidement, en une année. Et donc, j'envoyais des crayonnés à Camille. Et tout de suite, j'avais un retour d'Émile qui disait « Ah non, ça, pas comme ci. Ah ben non, ça, pas comme ça. »
Il essayait de revivre ce qu'il avait vécu, c'est
non,
ça ?
Non, je pense qu'il essayait de faire que son histoire colle, que cette histoire colle au plus près à son histoire. Alors là, j'ai accepté, bien sûr, ces remarques et je réajustais. Mais en même temps, mon idée, ça a toujours été de m'éloigner, comment dire, d'en faire une histoire universelle. Donc, de ne pas coller exactement à ce qui j'avais vécu. Parce que cette histoire devait toucher tout le monde. Et donc, quelquefois, oui, je disais, ok, ça, je vais faire dans ce sens-là. Et puis, quelquefois, non, je vais rester sur mon idée première.
Par exemple, donnez-nous un petit exemple.
J'ai un peu du mal, je pense, sur Gilles. Le crocodile d'Émile, que beaucoup de gens trouvent qu'elle ressemble plutôt à une grenouille.
C'est vrai. Je pensais que c'était une grenouille.
Oui. En fait, à l'origine, c'est un crocodile. Donc, c'est un peu ma réinterprétation, mais j'ai quand même eu des photos de ce doudou d'Émile. Eh bien, moi, je lui ai coupé les pattes arrière, oui. Alors que lui avait coupé les pattes avant. Enfin, quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est vraiment très anecdotique. Hein. C'est une image anecdotique du fait que... Ben non, j'ai gardé les pattes arrière parce qu'après, dans la narration, ça me permettait d'utiliser les pattes avant.
Et oui. Et donc, c'est... ça a duré un an de crayonnage, de préparation, d'échange entre vous trois.
Alors, en fait... Je ne sais plus exactement, mais ça a été très très vite. Dès que j'ai eu un crayonné que je pouvais montrer à un éditeur avec un texte au mieux écrit, là j'ai avec Camille, on a décidé de le montrer. Donc alors déjà pour moi à l'École des Loisirs, qui est mon éditeur principal, par fidélité, je lui montre toujours mes histoires. Donc là, c'était une histoire qui ne rentrait pas du tout dans leur politique éditoriale. Donc après...
Là, c'est une histoire... Vous avez plutôt des sujets des sujets qui ne sont pas en rapport avec la maladie. Donc là, c'est un sujet...
Voilà, exactement. C'était
difficile pour un éditeur à passer.
En fait, les albums que je propose à l'École des Loisirs, le héros ou l'héroïne le lecteur doit s'identifier à mes héros et mes héroïnes. Et donc là, c'était trop marginal, je pense, pour que...
Il fallait que ce soit grand public.
Voilà, beaucoup plus grand public. Bon, là, je pense que ça peut quand même être plutôt... grand public, mais l'éditrice m'a dit qu'elle avait été très émue par mon histoire, mais qu'il ne l'apprendrait pas. Donc à ce moment-là, je me suis retournée vers un autre éditeur.
Et le deuxième a accepté ?
Alors le deuxième a accepté très rapidement.
Ça a été rapide.
Je crois que c'est vraiment tombé à un bon moment. C'est en fait tombé à un moment où Thomas Booth, donc l'éditeur de Rue de l'Échiquier, avait pour projet de faire quelque chose sur la maladie pour les enfants. Et donc, voilà, c'est tombé juste quand il fallait.
Alors là, ce livre parle du cancer de la maman qui a un lymphome, donc l'annonce du diagnostic jusqu'à la fin où elle vint le chef des pamplemousses, c'est-à-dire le lymphome, c'est ça ?
Oui.
Et ça, c'est une histoire qui concerne vraiment un cas précis de maladie. Est-ce que on peut l'élargir ? Est-ce que on peut le lire lorsque on est maman d'un ou papa d'un enfant et qu'on n'est pas atteint d'un cancer mais d'une autre maladie aussi grave ?
Bien sûr, je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai voulu. C'est pour ça que je me suis décollée de l'histoire de Camille et d'Émile. J'ai cité cancer, lymphome, mais j'espère que mon histoire peut toucher d'autres personnes atteintes d'autres maladies, d'autres cancers et d'autres maladies. Et de toute façon, autour de nous, on a des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis. On est quand même très, très voisins du cancer, hein, et d'autres maladies. Donc, pour moi,
oui, on peut avoir une grand-mère qui souffre d'un cancer et donc lire cette histoire à son enfant ou la lui faire lire.
Bien sûr, ça permet de parler de la maladie en général.
Alors, on va continuer à parler de la maladie, de votre ouvrage « Comment j'ai tué le chef des pamplemousses » Pascal Bougeot, dans un instant.
Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Nous sommes de retour avec Pascal Bougeot, auteur, illustratrice, auteur de l'album de jeunesse Rue de l'Échiquier « Comment j'ai tué le chef des pamplemousses » dont on parle depuis 11h sur Vivre FM. Cet album, vous l'avez présenté, il est sorti en octobre, donc c'est récent, mais vous l'avez déjà présenté, notamment à une classe d'enfants.
Alors,
comment ça s'est passé ?
Très peu et un peu par hasard. Donc, je fais des rencontres dans des écoles et des fois, je vais très loin. Je suis partie en Guyane et j'étais dans une classe de CM1. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lire comment maman a tué le chef des pamplemousses. Et donc, je le lis. Et j'ai senti que les enfants étaient un peu scotchés par l'histoire, qu'ils étaient en attente de qu'est-ce qu'il allait se passer. Et donc, je referme l'album et il y a une petite fille qui lève la main et qui dit « Moi, ma maman a eu un cancer et elle est guérie. » Et un autre enfant lève la main et dit « Bah moi, mon tonton, il a eu un cancer et il est mort. » Donc là, pour moi, c'était la première fois que je le lisais et c'était vraiment « Waouh !» de tomber sur deux réactions comme ça, enfin surtout la seconde. Pour moi, c'était un peu difficile parce que je ne m'étais pas du tout préparée à avoir à répondre. Et donc là, je lui ai dit, ben oui, quelquefois, les médecins ne peuvent pas guérir. Ne peuvent pas guérir. Et le rôle de mon album, justement, c'est de pouvoir en parler. Là, on en a parlé ensemble. Et donc, deux enfants avec deux réactions, enfin, deux histoires différentes. On l'a lu. Chacun a mis des mots et les albums jeunesse servent souvent, alors je ne dis pas dans tous les cas, mais souvent l'album jeunesse sert à parler de sujets dont on ne parle pas. Et là, on va en parler plus facilement. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai terminé, j'ai dit, ben voilà, c'est la vie. Des fois, les médecins guérissent et des fois, ils n'y arrivent pas.
Donc, si l'on est en situation justement de maladie, on ne sait pas si on va guérir ou pas. Est-ce qu'on peut présenter votre livre et le lire à un tout petit, à un jeune enfant, sachant qu'on ne connaît pas l'issue ?
On ne la connaît jamais.
Puisque oui. La maman guérit à la fin.
Oui, alors a priori, on ne connaît jamais l'issue, quelle que soit la maladie. Et donc, bien sûr qu'il faut le lire pendant que l'enfant, pendant la maladie du parent ou des grands-parents ou de la maman d'un copain. Bien sûr, il faut le lire.
Il risque pas d'y avoir une déception à la fin puisque l'enfant ne va pas, l'adulte ne va pas guérir, ne va pas tuer le chef des pamplemousses comme dans l'histoire.
Alors là, on peut très bien dire que des fois, les médecins ne peuvent pas guérir. Et je pense, je ne les ai pas encore vus, mais il y a certainement d'autres albums, d'autres auteurs où on envisage une autre fin. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut lire pendant la maladie. C'est pendant la maladie que ça aide. Après également. Mais pendant la maladie, ça aide. Alors, bien sûr, quand l'histoire se termine mal, bon, c'est plus difficile. Mais d'autres auteurs ont certainement fait
Justement, d'autres auteurs ont déjà traité le sujet de la maladie du cancer en livre de jeunesse.
Bien sûr, il y a d'autres. Je ne pourrais pas vous les citer, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et plusieurs sont sortis là en même temps que le mien. Donc je vais... Le Salon du Livre de Montreuil ouvre demain, donc je vais essayer de chercher ces albums.
Voilà. Et vous sentez, de la part des éditeurs, une évolution, une prise de conscience? On veut parler de sujets tabous dont on ne parlait pas auparavant? Il y a une évolution?
Je ne dirais pas qu'il y a une évolution, ça a toujours été. Il y a toujours des éditeurs qui ont traité de sujets... Grave, la mort, la maladie, le racisme, la pédophilie. Voilà, il y a bien sûr la création en adulte jeunesse est très large, très variée, magnifique, et on aborde tout.
On aborde tout, la mort.
Oui, la hauteur d'un enfant. Mais
Et justement, comment vous vous adaptez? Parce que là, c'est un livre illustré, donc c'est pour des petits qui ne savent pas lire ou des petits qui savent lire tout seuls. À partir de 10 ans, j'imagine qu'on ne lit plus ce genre de livre jeunesse.
Oui, alors moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour les livres illustrés jeunesse. Quel que soit... Voilà, il n'y a pas d'âge. On peut très bien avoir beaucoup de plaisir à lire des livres illustrés. Qu'on soit collégien, lycéen, et même je dirais qu'ils sont très contents de retrouver les albums ou le plaisir qu'ils avaient quand ils étaient petits. Et les parents aussi, beaucoup de parents ou d'adultes, continuent à acheter des livres jeunesse, même si leurs enfants n'ont plus l'âge.
Et oui, et ça c'est important de le souligner. Les enfants qui lisent ce livre, ils vont avoir entre quel âge et quel âge, entre 3 ans on va leur lire l'histoire. Vous avez créé l'histoire pour que ce soit lu pour des petits, des tout-petits.
Oui, des
petits. Que ce soit compréhensible pour des petits de
3-4 ans. Mais vraiment sans limite. Hein. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de limite. Un enfant beaucoup plus grand peut le lire. Après, il sera conseillé par un bibliothécaire, par un libraire, par un parent. Ça sera un cadeau. Je pense que vraiment, il ne faut pas limiter... faut pas limiter en âge la lecture de quelque album ce soit.
Vous avez d'autres projets pour le futur? D'autres albums à venir?
Oui, j'ai toujours je fais des albums qui parlent du quotidien, qui parlent de mes voyages. J'aime montrer la diversité, j'aime montrer en fait j'aime partager mes émotions.
Et est-ce que vous devez faire un travail un travail particulier lorsque vous écrivez pour les enfants, pour un adulte, j'imagine que vous seriez beaucoup plus franche, beaucoup plus directe. Et pour un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On atténue les choses?
Non, je crois.
C'est l'inverse?
Enfin, je ne crois pas. Déjà, je me dis pas que je suis en train d'écrire un livre pour enfants. Je veux partager mes émotions. Donc, bien sûr, je les partage, j'essaye au niveau d'un enfant, mais sans censure pour moi. Partager mes émotions et... j'ai un peu du mal à...
Vous êtes dans le partage.
En fait, quand j'écris un texte, déjà je l'écris pour accompagner des illustrations. Le texte n'est pas redondant avec les illustrations. Je peux utiliser du vocabulaire plus compliqué pour les enfants. Mais je trouve ça important de ne pas forcément utiliser un vocabulaire, je dirais entre guillemets, bébête, hein, parce qu'on s'adresse à des enfants. Ça, pour moi, c'est vraiment contre ce que j'ai envie de partager. Donc j'utilise des fois du vocabulaire un peu compliqué. Eh bien, les parents, s'ils ne le comprennent pas, ils iront dans un dictionnaire ou maintenant sur Internet. C'est tellement facile d'avoir des définitions. Je trouve que c'est important de tirer l'enfant vers le haut.
Et oui, effectivement, on apprend des choses en lisant votre ouvrage, on apprend des choses même lorsqu'on est adulte, c'est important de souligner. Alors merci Pascal Bougeot, je rappelle votre livre, le titre de votre livre, « Comment maman a tué le chef des pamplemousses ». Le chef des pamplemousses, c'est le lymphome que la maman tue à la fin de cet ouvrage.
Oui, je rajoute qu'il y a un glossaire à la fin de l'album, où j'explique quelques mots importants qui ne se figurent pas forcément dans l'album.
Voilà, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier Jeunesse, au prix de 15 euros. Un livre qu'on peut trouver un peu partout.
Oui, qu'on peut commander chez son libraire.
Voilà, je vous encourage à le faire. Merci Pascal Bougeot. Je vous rappelle le titre de votre livre, Comment maman a tué le chef de Pamplemousse. Merci à vous.
Vivre FM.